Nous voulons nous placer sous le regard du Seigneur pour que l'heure que nous allons passer ensemble soit riche et bénie pour chacun de nous. Je vois que nous arriverons très vite à la fin de ces rencontres et nous supplions le Seigneur d'agir dans tous nos cœurs et que les cœurs qui sont encore fermés puissent vraiment être brisés et que nous apprenions à connaître celui qui nous a tant aimés. Ô Père, toi qui t'occupes de toutes tes créatures, il nous semble que ce soir, tu te penches sur nous, nous qui valons beaucoup mieux que les oiseaux du ciel, beaucoup mieux que les brebis et que les bœufs. Tu voudrais nous faire du bien. Tu voudrais transformer nos vies. Tu voudrais répondre à nos besoins les plus précis. Ne permets pas que nos cœurs se ferment et que ce soir, en cette fin de journée du 11 août, nous puissions recevoir enfin la grâce dont nous avons besoin pour que notre vie soit transformée, que nous soyons gardés du péché et que nous puissions être utilisés par toi dans ce champ qui est ce monde où tu nous as placés pour y rendre un témoignage. Exauce-nous, Seigneur Jésus. Amen. Eh bien, mes amis, ce soir encore, nous allons continuer notre étude sur ce thème « Interroge les bêtes et elles t'instruiront » et nous rappelons que ce texte se trouve dans le livre de Job au chapitre 12 et au verset 7e. Et ce soir, je dirai simplement un verset qui a déjà été cité et qui se trouve dans le chapitre 1er d'Ésaïe. Quand Dieu prend à témoin le ciel et la terre pour faire entendre sa voix et qu'il s'écrie « Le bœuf connaît son possesseur, mais Israël ne connaît rien, mon peuple n'a pas d'intelligence. » Le bœuf connaît son possesseur. Et nous, mes bien-aimés, est-ce que nous connaissons notre Créateur? Et pouvons-nous dire que ce Créateur est celui qui nous possède et que nous sommes réellement en relation avec lui, que nous le connaissons d'une manière intime, ou bien Dieu doit-il dire en sachant tout de nous, ils ne me connaissent pas. Ils ne connaissent rien de mes pensées et rien de mes voies. Leur cœur reste fermé. Est-ce que nous n'aurions pas même l'intelligence d'un bœuf? Le bœuf connaît son possesseur. Je vous invite à faire une étude personnelle sur le bœuf dans l'Écriture sainte. Si le lion nous est présenté comme le roi des animaux féroces, le bœuf ou le taureau est le roi des animaux domestiques. Dans l'Écriture, le bœuf est un nom collectif qui désigne le même animal, mâle ou femelle, donc le taureau, la vache, la genisse et le veau sont renfermés le plus souvent dans cette expression le bœuf. Donc, quand il est dit le bœuf connaît son possesseur, ça veut dire que la vache aussi n'est pas en retard, elle connaît aussi son possesseur, la genisse aussi, et le veau aussi. Croyez-le, tout ce détail dépend du Créateur et sont en relation avec le Créateur. Et nous pourrions examiner avec beaucoup de profit tout ce que l'Écriture nous dit sur ces animaux, ce bétail domestique que nous trouvons rassemblé dans ce terme le bœuf. Alors que le lion symbolise, comme nous l'avons vu hier soir, la force destructive, qu'elle vienne de Dieu, qu'elle vienne de Satan ou des hommes, le bœuf est le symbole de la fécondité, de la puissance créatrice, de l'endurance et du travail. Si belle et fière allure qu'est le lion, qui est le symbole de la marche chrétienne, marche qui devrait être une marche royale et majestueuse, le bœuf, sous le joug, nous parle de notre dépendance complète du Seigneur dans notre labeur quotidien et aussi dans notre marche. Nous ne devons pas avoir simplement comme chrétiens une fière allure et une belle marche, une marche qui fait envie, une marche qui parle de celui qui nous a créés et qui reflète quelque chose de cette majesté. Notre marche doit être aussi une marche soumise à celui qui nous a créés. Et je demande au Seigneur qu'il nous révèle ce que veut dire marcher sous son joug. Quand il parlait du joug que nous devions porter, le Seigneur avait à la pensée les bœufs qui marchent sous le joug, qui sont toujours deux et qui marchent sous le même joug, au même pas, avec le même effort. Dans les Écritures, nous rencontrons à de nombreuses reprises donc les bœufs ou les taureaux. Je dirais juste quelques mots généraux sur ce sujet. Le bœuf, c'était le principal animal domestique des Juifs. Les patriarches étaient propriétaires de grands troupeaux. Et vous savez même qu'en remontant de l'Égypte, Abraham et Lot durent se séparer parce que leurs troupeaux étaient trop nombreux. Ils avaient trop de brebis et de bœufs, est-il dit. C'était en quelque sorte la richesse des patriarches, les bœufs. Je pense spécialement à Job, qui possédait, avant ses épreuves, 500 paires de bœufs avant ses malheurs. Job chapitre 1, verset 3. Et il a perdu en une seule journée 500 paires de bœufs. Vous vous souvenez des larmes de Michel lorsqu'il est venu nous dire que le feu avait détruit cette ferme où il élevait des truies et où 1100 truies ont été consumées. Eh bien, Job a dû apprendre que ces 500 paires de bœufs avaient été dérobées, emmenées en captivité par les ravisseurs de tous ces biens. Le bétail de Bazan était aussi célèbre. Et là, vous allez sourire, parce que j'ai dit hier, en citant le livre des Juges, que Samson, après avoir tellement désiré cette femme philistine, la traitait tout simplement de jeunisse. Si vous n'aviez pas labouré avec ma jeunesse, disait-il aux Philistins, vous n'auriez pas connu la réponse à l'énigme que je vous ai posée. Eh bien, les troupeaux qui se trouvaient sur les pâturages de Bazan, une contrée d'Israël, étaient très réputés. C'est là qu'il y avait les plus belles vaches, les meilleures laitières et les plus beaux taureaux. Et Amos, au chapitre 4 de son livre, parlant des femmes riches d'Israël, les interpellait, ces femmes, d'une façon qui nous surprend, nous, qui avons peut-être une mentalité un peu différente. Écoutez cette parole, jeunisse de Bazan, qui est sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les misérables et qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris, quoi, jeunisse qui parle à leur mari. Vous avez déjà vu des jeunisses parlant à des taureaux? Vous dites à vos maris, apportez et buvons. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté. Voici des jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Donc, même les prophètes pouvaient employer des expressions très fortes pour désigner des humains qui ne marchaient pas dans la fidélité. Bien, je veux croire que le colloque que nos sœurs ont eu tout à l'heure n'était pas un colloque de jeunisse ni de vache, mais qu'aucune décision n'a été prise contre les maris. Comment? Vous ne savez pas. Il y a eu des femmes contestatrices qui ont voulu une réunion spéciale. Sur les trucs de Saint Paul. Voilà ce que nous avons entendu de nos oreilles. Alors, quittons le bétail de Bazon ou de Cedar Lodge. Amos 4, versets 1 à 3, je vous le signale parce que ça vaut la peine. Je n'ai pas dit le contraire. Nous continuons notre étude. Ça me fait penser aux candidats au baptême. Je l'ai visité cet après-midi et il m'a dit, tu sais, j'aime beaucoup lire la Bible. C'est vraiment le premier livre qu'on devrait toujours lire. Les autres, ça devrait toujours venir en second, m'a dit ce candidat au baptême. Ça devrait toujours venir en second. Et puis tu sais, j'aime lire la Bible. Parce que j'y trouve même de ces jokes magnifiques. Et ça me fait rire. Il y a des beaux jokes dans la Bible. Et bien, voilà un, par exemple. Et ce candidat a bien insisté. La lecture de la Bible, ça devrait toujours passer en premier. Puis il m'a dit, tu as déjà remarqué, ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur dans leur cœur, c'est pas des gens heureux. Ils se plaignent toujours. Ils sont heureux seulement un petit moment quand ils ont reçu un cadeau. Puis après c'est fini. Et ils se plaignent encore. Ce candidat au baptême est un observateur. Et j'ai été profondément édifié en l'écoutant, moi qui étais venu pour lui parler. Et il m'a enseigné bien des choses. J'aurais voulu que vous l'entendiez prier pour ceux ou celles qui n'étaient pas encore au Seigneur à Mahanaïm. Je ne sais pas s'il avait une révélation, mais il pensait que peut-être quelques-uns parmi vous n'avaient pas encore fait le pas décisif. Et il priait pour que cela se passe. Parce qu'il disait, s'ils ne le font pas, ce sera terrible ce qui va arriver. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui va arriver? Ou bien des choses épouvantables. Et puis, il m'a dit, j'ai vu quelque chose. Je pense qu'ils auront tous la tête coupée. Mais, on dit cela, hein, mais moi je pense que ça sera pire. Quand la septième trompette sonnera. Quand la septième trompette sonnera. Donc il avait lu quel livre? L'Apocalypse. Et il était impressionné. Et il voulait servir le Seigneur. Servir le Seigneur dès sa jeunesse. Vous aurez l'occasion de faire sa connaissance. Eh bien, je demande au Seigneur qu'il prépare ce baptême, qu'il nous prépare et que nous vivions des moments vraiment avec Dieu dans sa présence. Et ce serait tellement beau que ce soir, quelqu'un qui n'a pas encore ouvert son cœur le fasse, en réponse aussi à la prière de celui qui passera par les eaux du baptême vendredi, Dieu voulant. Et qui me disait, avant-hier soir, j'avais un camarade qui ne connaissait pas Jésus et il ne savait pas comment se donner à lui. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Bien, je lui ai montré comment on peut se donner à lui. Je lui ai dit, alors, qu'est-ce que tu lui as expliqué? Oh ben, j'ai pris ma Bible. Il n'en avait pas. Il n'en avait pas. J'ai pris ma Bible. Et je lui ai montré des passages. Il y en a des beaux, tu sais. Dans l'Évangile. Dans l'Évangile. Et il a compris. Puis on a prié. Et je pense qu'il est au Seigneur. Et depuis hier, il a une Bible. Puis il la lit. Mais il y a quelque temps, j'ai parlé aussi à un autre. Et je pense bien qu'il est venu aussi au Seigneur. Mais je ne suis pas très sûr. Hein. Il le dit. Mais moi, je ne peux pas savoir. Il n'y a que le Seigneur qui sait. Bien, quand vous verrez ce vieillard, vous penserez vraiment qu'il y a de la sagesse en lui. Même si miraculeusement, il n'a pas encore les cheveux blancs. Il y a des vieillards qui n'ont pas les cheveux blancs. Et il y a des jeunes qui ont déjà les cheveux blancs. C'est le candidat mystère. Et un mystère qui vous sera bientôt révélé. Alors, continuons notre étude sur les bœufs. Le bœuf ou le taureau était l'animal principal des sacrifices. Et celui aussi dont on mangeait la viande. Le bœuf était donc classé parmi les animaux impurs ou purs? Parmi les animaux purs. Et sa chair passait pour être la nourriture la plus essentielle chez les Hébreux. Et qu'est-ce que nous savons de la vie du bœuf? Un bœuf peut vivre combien d'années? Non, 40 ans, c'est le lion. Un bœuf, il est plus modeste. Il peut vivre seulement une quinzaine d'années, peut-être arriver à 20 ans. Je me souviens que ma grand-mère avait dit à une de ses petites filles qui se glorifiait d'avoir 20 ans, tu as l'âge d'une vieille vache. Elle était un peu du genre hébreu. Oui. Attention, à 20 ans, une vache est déjà vieille. Alors, calculez le temps que vous avez à vivre. On sait le temps que peut vivre un lion. On sait le temps que peut vivre un bœuf. Alors nous, combien d'années pouvons-nous avoir à vivre? Dès l'âge de 3 ans, un bœuf peut être dressé pour le travail du labour ou de trait, mais à l'âge de 10 ans, il ne peut guère rendre de service. De sorte que vous avez un temps pour servir et un temps qui ne vous reviendra plus. Quelles sont les années que vous allez employer pour le service du Seigneur? Est-ce ces années où, comme celle du bœuf, vous n'avez plus qu'à attendre la mort? Ou bien, est-ce que vous donnerez au Seigneur les premières années de votre vie, votre force, votre énergie, que le Seigneur pourra posséder, pourra employer? Et puis, quand on observe le bœuf, on s'aperçoit que c'est un animal patient et doux, quoique robuste, et que le bœuf est susceptible d'attachement envers ceux qui le soignent. Il reconnaît leur voix et sait obéir à l'appel du nom auquel on l'a accoutumé, Michel nous disait qu'il en était de même de ses truies. Il les appelait par leur nom et il recevait une réponse, un grognement, et qui disait bien que chacun comprenait à qui le propriétaire parlait. Et on a observé que chez les bœufs sauvages, chez les taureaux sauvages, qui sont donc en liberté dans les pâturages, qu'ils ont un courage extraordinaire et qu'ils peuvent résister aux fauves. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que quand un fauve vient pour attaquer des vaches ou des veaux, les taureaux rassemblent en cercle les vaches et les veaux et se retournent et font front avec leurs cornes prêts à défendre le troupeau. Et cela sans commandement. Il y a dans ces animaux cet instinct qui leur donne ce courage et cette force de préserver les vaches et les veaux. Ils les rassemblent et ils font front pour les défendre. Observez les animaux. Les animaux ne vous enseignent-ils pas? Pas. Vivant, le bœuf est donc utile par son travail et par son lait. Enfin, vous me direz, vous ne savez pas ce que vous dites, du lait de bœuf. Non, mais alors ça c'est le lait de la femelle, le lait de la vache. Mort, eh bien, le bœuf sert à l'alimentation. Et nous le savons, l'industrie actuelle utilise sa peau, ses cornes, sa graisse, son poil et ses os. Et qu'est-ce qu'on utilise de nous? Le docteur Schweitzer était tellement ému en Afrique en pensant au peu de viande qu'avaient les Noirs qu'il avait soignés, qu'il aurait aimé donner son corps pour qu'il soit mangé par les Noirs, mais il a compris que sa viande serait trop dure, disait-il. Et c'est pourquoi il n'a pas été plus loin. Mais nous autres, nous ne pouvons servir le Seigneur, nous ne pouvons être utiles au Seigneur que dans notre vie. C'est vrai ou c'est faux? Une fois mort, à quoi servira-t-il votre corps? Au verre, oui. On l'a dit, je l'ai entendu. Alors, c'est tout ce que vous ferez? Nourrir les vers. Ah, moi j'ai une vocation. Je nourrirai les vers. Je nourrirai les vers. Vous avez connu notre cher ami, le pasteur Champandal de Vénérée Mémoire, pasteur à Genève pendant des années, brigadier de la Drôme en France, qui a été un des instruments de ce magnifique réveil. Un jour, j'étais dans son presbytère, à sa table, et sa chère femme, dans la conversation, c'était la première fois que je mangeais chez eux, je venais de faire sa connaissance, et elle a dit ceci: vous savez, cher ami, moi, j'ai fait mon testament, et je veux être incinéré, parce que je ne veux pas être la proie des asticots. Nous étions en train de manger la salade. Et je me souviens toujours de l'impression que ça m'avait fait. De sorte que son mari a dit paisiblement: vous comprenez, Gaston, elle est pour la grillade. Vous savez, on peut rire aussi dans les foyers pastoraux. Mais c'est pas si risible que cela. On peut vous dire ce qu'une brebis donne une fois morte, ce qu'elle a donné dans sa vie. On peut vous dire ce qu'elle donne dans sa mort. On a vu qu'on emploie même les cornes de la brebis. Mais nous, qu'est-ce que nous pouvons donner? Nous ne pouvons donner que dans notre vie quelque chose de positif. Nous ne pouvons donner que dans notre vie. Et si ce soir vous compreniez cela, le bœuf vous aurait enseigné quelque chose. Vivant, on employait le bœuf pour le labourage. Deutéronome 22, verset 10. 1 roi 19, verset 19. Vous voyez Élisée qui va devenir prophète, qui labourait les champs de son père avec 12 paires de bœufs. Il conduisait ses bœufs. Et on employait aussi les bœufs pour le charroi, c'est-à-dire pour tirer un char. Nombre, chapitre 7, verset 3. On pouvait atteler 12 bœufs à un char. C'était un attelage magnifique. Et maintenant, si vous lisez la loi mosaïque, parce que tout ce que j'essaye de vous donner ici, c'est un intérêt pour la Bible. Et en même temps, inspiré par le néophyte que vous connaîtrez bientôt, eh bien, vous montrez aussi qu'on peut rire en lisant la Bible. Comme il dit, il y a des jokes dans la Bible. Eh bien oui, la loi mosaïque, quand vous la lirez, renfermait plusieurs prescriptions relatives à la protection du bétail. Lisez Exode 23, verset 12, Deutéronome 25, verset 4. Et c'est simplement pour nous parler des bœufs que l'Écriture s'attarde si longtemps? Non. Il doit y avoir 10 leçons dans tous ces récits où nous trouvons des bœufs. Je vous cite seulement quelques prescriptions de la loi mosaïque. On devait faire reposer les bœufs le jour du sabbat. Exode 23, verset 12, Deutéronome 25, verset 4. Et c'était un ordre de Dieu. Il voulait que le bœuf se repose. Il était défendu d'atteler un bœuf et un âne à la même charrue. Et pourquoi? Parce que ça aurait été pénible pour l'âne. Parce qu'ils ne sont pas au même niveau. C'était Deutéronome 22, verset 10. Pendant le battage des gerbes aussi, qu'on faisait fouler aux pieds par des bœufs, on ne devait pas museler la bouche de ces animaux. Deutéronome 25, verset 4. Il fallait que le bœuf puisse manger tout en foulant aux pieds le blé. Et Paul tire alors, dans 1 Corinthiens 9, 9, une leçon spirituelle de cette loi de Moïse, en disant que ceux qui prêchent la parole doivent être libérés du souci matériel. On ne doit pas museler le bœuf pendant son... On ne doit pas museler le bœuf pendant son travail. Et il dit que ceux qui reçoivent des biens spirituels devraient avoir à cœur de les soutenir matériellement. Et c'est une exhortation de Paul dans l'Épître aux Corinthiens et dans sa première épître à Timothée. La loi encore défendait de convoiter le bœuf d'autrui. Deutéronome 5, verset 21. Puis il y avait bien d'autres prescriptions. Si tu voyais le bœuf de ton ami, de ton ennemi dans une fosse, tu devais le lui ramener. Et bien d'autres choses sur lesquels je n'insiste pas. Ce soir, je voudrais simplement orienter votre méditation en citant quelques portions de l'Écriture qui nous parlent des bœufs. Est-ce que vous en avez à l'esprit? Quand je vous ai parlé hier des lions, vous avez eu des réponses. Mais maintenant, si je vous parle des bœufs, est-ce qu'il y a un récit qui vous vient à l'esprit quand on parle des bœufs? Exactement, je l'ai noté. David a employé des bœufs pour faire le transport de l'arche de l'Éternel. Est-ce qu'il a bien fait? 1 Chronique, chapitre 13, versets 1 à 14. Et ce fut un grand deuil en Israël. Et il est dit que cela, c'est parce qu'on a justement employé des bœufs. Vous allez lire vous-même ce chapitre 13 du premier livre des Chroniques. David tint conseil avec les chefs des milliers, des centaines et avec tous les princes. Et moi, je suis bouleversé quand je pense à cela. Il a tenu conseil et il n'y a pas eu en Israël quelqu'un pour lui dire « David ne fait pas cela ». Tous ont été d'accord. David dit à toute l'assemblée, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les lévites dans les villes qui sont leurs banlieues, et qu'ils se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes plus occupés depuis le temps de Saül. » Cette arche avait été prise, vous vous en souvenez, au jour où Samuel était avec Élie, le vieux sacrificateur. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Vous savez, il y a des choses qui paraissent convenables aujourd'hui à tout le peuple chrétien et qui ne sont pas du tout convenables. Mais même les sacrificateurs ne bronchent pas, eux qui connaissent la loi, qui savent ce qu'ils devraient faire. David assembla tout Israël, depuis le Sicor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kiriath Jearim, c'est Abou Gosh aujourd'hui, l'arche de Dieu. C'est près de Jérusalem. Et David, avec tout Israël, monta à Bala, à Kiriath Jearim, qui est en Juda, pour faire remonter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. C'était une très belle pensée de faire remonter l'arche pour la mettre en son lieu à Jérusalem. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uzza et Akio conduisaient le char. Où avait-il trouvé cette idée de faire un chariot neuf et de déposer l'arche sur ce chariot? Chez les païens, exactement, chez les Philistins. Les Philistins qui avaient dérobé cette arche de l'Éternel, à un moment donné, ils ont commencé d'avoir des hémorroïdes. Ça les a pris à une certaine place d'avoir l'arche du Seigneur. Vous savez, ça peut vous amener des désagréments très graves. Et puis, il y a eu ensuite des souris et qui ont envahi tout leur territoire et qui leur ont fait perdre des biens considérables en grains. Alors, ils ont invoqué leur Dieu et leur prêtre, leur a conseillé de renvoyer l'arche de l'Éternel. Et pour cela, eh bien, ils ont décidé de faire un chariot neuf et de mettre l'arche sur ce chariot neuf et d'atteler à ce chariot, quoi ? Des vaches. Et on a mis des vaches qui n'avaient jamais porté le joug. Les Philistins ont laissé partir l'arche. Mais sans conducteur. Et les vaches, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont tiré le chariot et elles sont allées en beuglant et en mugissant directement vers la frontière d'Israël. Les vaches connaissent leur possesseur. Les vaches savaient où conduire l'arche. Et les vaches ont réussi donc leur transport. Elles étaient attelées au chariot neuf des Philistins. L'arche n'a pas bronché. Mais quand David s'inspire de la méthode des Philistins, qu'est-ce qui va arriver? Lui, il n'a peut-être pas mis des vaches. Il a mis des bœufs. Verset 7. Ils mirent sur un chariot neuf l'arche de Dieu. Et David dit à tout Israël, et tout Israël dansait devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Kidon, Uzza étendit la main pour saisir l'arche. Pourquoi? Parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uzza mourut devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment et ce lieu fut appelé jusqu'à ce jour Pérès-Uzza, qu'il y a une brèche. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Quand est-ce qu'on devrait avoir la crainte de Dieu? Avant de faire quelque chose ou après? Avant. Avant, on devrait se demander, mais est-ce que ce que je suis en train de faire pour Dieu, est-ce que c'est conforme à sa pensée? Est-ce que c'est conforme à sa volonté? Mais nous, on regarde qu'est-ce qui réussit dans le monde. Bien, nous ferons la même chose et ça nous réussira et on emploiera ces méthodes à la gloire de Dieu. Et Dieu n'est pas du tout dans cette affaire. Et pourquoi Uzza a-t-il été frappé? Parce que lui savait qu'on ne devait pas faire ainsi. Est-ce que vous croyez qu'Aaron ne savait pas qu'il ne devait pas faire le veau d'or? Il l'a fait pour satisfaire le peuple en disant à Moïse, tu sais bien comme il est ce peuple toujours porté au péché. Il a demandé ce veau, alors je leur ai fait le veau pour satisfaire le peuple. Eh bien, si nous n'avons plus cette énergie qui nous fait dire non à certaines méthodes, eh bien, nous apportons à nos frères et nos sœurs les possibilités de mort. Si ce n'est pas une mort physique, c'est en tout cas une mort spirituelle. Et nos milieux sont la plupart du temps dans la mort spirituelle. Et pour quelle raison? Parce que nous ne nous conformons pas à la loi du Seigneur. Comment devait-on porter l'arche? Sur des barres et sur les épaules. C'était les sacrificateurs qui devaient porter l'arche. Et si l'arche avait été portée comme elle devait être portée, sur les barres, ce qui a eu lieu après, quand ils se sont repentis, puis qu'ils ont consulté l'Écriture, parce qu'on avait oublié. On avait oublié, puis on pensait, mais ce n'est pas important, puis il faut vivre avec son jour, avec son siècle, et c'est quand même beau un char neuf. Et puis des bœufs qui tirent, c'est bien mieux que des hommes qui portent l'arche. C'est antique, ça. Bien, oui, c'est antique. Mais on ne meurt pas quand on suit la parole. Retournez au sentier ancien. Nous avons besoin de revenir à la parole. Les bœufs ne vous enseigneront-ils pas? Pourquoi est-ce que les bœufs ont branlé là? Pourquoi est-ce que les bœufs ont eu une défaillance? Qui est-ce qui commande aux bœufs? C'est le Seigneur. Les vaches des Philistins, elles sont allées droit au but. C'était des vaches de Philistins. Mais quand c'est les bœufs d'Israël, le Seigneur parle par les bœufs aussi. Est-ce que vous avez une autre histoire? Quelle histoire de Saül? Oui, on pourrait parler du bœuf de Saül, mais est-ce que vous en avez une autre qui peut peut-être vous parler davantage? On a parlé du bœuf d'Ésaïe qui connaît son possesseur. On a parlé des bœufs tirant le chariot pour ramener l'arche de l'Alliance. On pourrait parler aussi du bœuf de Saül, mais on ne peut pas tout prendre. Mais je voudrais vous parler simplement d'un jeune homme qui s'est conduit comme un bœuf. Vous le connaissez? Nous allons lire dans les Proverbes. Proverbes chapitre 7. Je veux croire qu'il n'y en a pas un ici. Parce que j'ai parlé des vaches de Bazan, des genisses, et je sais que j'ai peut-être irrité certaines de nos sœurs. Eh bien, que nous les hommes, nous nous demandions si nous n'avons pas été quelquefois dans notre vie des bœufs. Chapitre 7 des Proverbes. Verset 6. J'étais à la fenêtre de ma maison. Mais avant, j'irai-tu verset 4. Dis à la sagesse, jeune homme, dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence, ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis, il y avait des moustiques, j'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans son cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté, lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. » Elle peut parler de choses religieuses. « C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvertures, de tapis, de fils d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car, oh, mon mari, tiens, elle est mariée, mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac d'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie. Ça va vous rester, j'espère. Oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Hein? Comme le bœuf, mais qui va où? À la boucherie. Vous savez qu'il y a dans cette parole une puissance qui peut vous retenir lorsque vous êtes tenté. Parce que ça, vous pouvez connaître cela. Vous pouvez être dans une ville où cela peut vous arriver, où vous pouvez être accosté. Et que ferez-vous? Eh bien, tout à coup, le Seigneur vous rappellera ça, comme le bœuf. Est-ce que tu vas faire le bœuf ce soir? Comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Eh bien, je n'ai pas besoin de commenter, c'est assez fort. Et je pense que ça a parlé à votre cœur, que ça vous a même fait rire. Mais attention, attention. La parole qui nous décrit cela est d'une force et d'une puissance. Je vous cite la vocation d'Élisée, 1 roi 19, verset 19, où, alors qu'il a une occupation très importante dans la maison de son père, quand Élie vient lui dire qu'il est appelé à servir Dieu, il quitte ses bœufs. Il peut le faire. Toute cette richesse, et puis il s'en va pour être le prophète du Seigneur. Est-ce que vous savez quitter vos bœufs? Dans la parabole des invités, Jésus a parlé des bœufs au grand souper. un des invités au grand souper, quelle est son excuse pour ne pas venir? J'ai acheté 5 paires de bœufs. Élisée, lui, il en avait 12 paires de bœufs et il les a laissés pour suivre le Seigneur. Quelqu'un qui est invité, il ne peut pas venir. Pourquoi? Parce qu'il a acheté 5 paires de bœufs et il doit les essayer. Bien, mes amis, je vous le demande. Est-ce que vous êtes retenu, vous, de répondre à l'invitation du Seigneur ce soir, 11 août, parce que vous avez 5 paires de bœufs? Qu'est-ce qui vous retient? Les 5 paires de bœufs? Vous vous dites, oui, mais après le camp, je dois essayer quelque chose. Moi, je ne peux pas dire que ce sont des bœufs, mais vous, est-ce que vous les connaissez, vos bœufs? Voyez-vous, nul homme qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. Là aussi, dans Luc 9, verset 62, vous avez cette vision des bœufs. Vous avez mis la main à la charrue, vous devez avancer, vous ne devez pas regarder derrière vous. Si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, eh bien, continuez le sillon sans regarder ni à droite ni à gauche, car vous ne serez pas propre pour le royaume de Dieu. La grande leçon que vous pourrez trouver en étudiant les bœufs dans l'Écriture, c'est la marche sous le joug. Le lion me montre par sa belle démarche que j'ai à marcher comme Jésus a marché, dans la sainteté, dans la beauté, dans la bonté. Le bœuf m'apprend que j'ai à marcher sous le joug du Seigneur et au pas du Seigneur. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, qui êtes chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon joug est aisé et mon fardeau léger, et vous trouverez le repos de vos âmes. Matthieu 11, verset 28. Avez-vous accepté le joug du Seigneur? Quand on est sous le joug du Seigneur, on n'est jamais seul. C'est lui qui porte le joug d'un côté et nous de l'autre. Mais je puis dire par expérience que ce joug, il le porte plus que nous ne le portons nous-mêmes. C'est son joug à lui et je me place sous son joug. Alors maintenant, nous avançons ensemble et le sillon peut être droit. Oh, que le Seigneur vous parle et que les leçons qu'il veut nous donner par tous ces animaux, que ce soit le lion, roi des animaux féroces, que ce soit le bœuf, roi des animaux domestiques, que ce soit l'aigle dont nous parlerons demain, roi des oiseaux, eh bien, que nous soyons enseignés et que nous puissions vivre d'une manière qui plaise au Seigneur. Prions. Dieu notre Père, nous voudrions que ton esprit nous montre ce que sont ces bœufs qui nous retiennent et qui nous empêchent de répondre à ton invitation. Qu'allons-nous essayer à